Chapitre 33. Je portai à Thomas le panier que lui avait préparé Martha. Il n'était plus dans le passage du diable, mais rabassé du bois mort dans les sous-bois. Il sourit. « Alors, te voilà devenu le marmiton ?» Remarquant ma grimace quand je me griffais la main avec après un brin d'osier qui dépassait de l'anse du panier, il prit mes deux mains dans les siennes et les retourna paume vers le ciel. « Ah, je comprends maintenant pourquoi c'est moi qui suis chargé de porter le panier à ton oncle. » Tu es déjà fatigué de ces sports virils. » C'est vrai, avouai-je. Et aussi de ces histoires de tribus guerrières qui dévorent la cervelle de leurs ennemis et tuent des bébés pour leur sacrifice. Et qui sculptent leurs affreuses petites poupées pour les faire ressembler à des humains. Le mépris avec lequel il avait dit cela éveilla ma curiosité. Après tout, Mrs. Golightly avait bien été sculptée pour ressembler un tant soit peu à ma grand-mère. Sinon, Sophie n'aurait pas trouvé qu'elle ressemblait trait pour trait à ma mère. Mais j'avais si soigneusement caché le secret de mon héritage que je ne voulais pas en parler maintenant. Je me contentais donc de dire « Pourtant, Martha m'a dit que vous aviez fabriqué pour Liliana une maison de poupée. » Il frémit. « Oui, mais pas pour le genre de poupée dont parle le capitaine. Ces objets diaboliques qui possèdent des pouvoirs étranges. Quel genre de pouvoir ?» Il eut un sourire crispé. « Oh, je ne dis pas qu'elles prennent vie, grandissent et vont étrangler les gens dans leur sommeil, non ?» C'est plus subtil que ça, une espèce de magie. Le capitaine appelle cela le vaudou. Il suffit de jeter un sort à quelqu'un, et ensuite la poupée et la personne pour laquelle elle a été fabriquée sont à jamais entremêlées jusqu'à la mort. Chaque fois que tu tortures la poupée, ton ennemi se tord de douleur. Si au contraire tu veux le bonheur d'un ami, tu fais pleuvoir des bienfaits sur son effigie. Je revis les gravures représentant les mangroves des Caraïbes de mes livres d'enfants. Et tout ce qui m'avait fait faire des cauchemars pendant si longtemps me revint. Si j'avais eu le loisir de cogiter encore un peu, je crois que j'aurais rapidement percé le secret de mon oncle. Mais Thomas en avait assez de ces histoires de sauvages et de mes soucis. N'aie crainte, le capitaine ne reviendra pas te chercher pour une nouvelle leçon de pêche. Une fois qu'il a lancé sa ligne, il est parti pour des heures. Mais je n'en étais pas convaincue. Et donc, ma mission accomplie, je retournai dans la cuisine où Martha préparait ses tartes. Quand elle eut versé sa farine dans une jatte, je me glissai sur une chaise et pris quelques pommes dans le tas qui était devant moi. « Voulez-vous que je vous les épluche ?» Elle me tendit un couteau d'office et retourna au bout de la table pour pétrir sa pâte. Devinant qu'elle se sentirait plus libre de parler si elle pensait que je savais déjà tout de l'histoire de ma mère, je formulai mes premières questions avec prudence. Vous connaissiez aussi les frères de ma mère, évidemment. Comment étaient-ils? Ses frères? Une ombre passa sur son visage. Oh, tu les aurais adorés, j'en suis sûre. Cette maison était tellement gaie quand ils étaient encore tous en vie. Je poursuivis en employant des mots assez ambigus, en inventant à moitié. Ma mère devait tellement pleurer quand elle pensait à eux qu'il aurait fallu une brute pour la forcer à raconter en détail l'histoire de sa famille. Martha haussa les épaules. Le bonheur ne laisse pas de marque. Il n'y avait donc pas grand-chose à raconter, jusqu'à la mort du père des enfants. Il a fait une chute de cheval une semaine après la naissance de Jolion. Elle soupira. Toute la maisonnée était anéantie par le chagrin. Et ce n'est que 2 ans plus tard que la mère de Liliana, ayant séché ses larmes, put envisager de se rendre à Londres pour signer les derniers papiers. Et c'est là qu'elle a rencontré George Severn, dont la pauvre femme était morte quelques années plus tôt. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Et comme ce nouveau mari n'avait ni maison ni fortune personnelle, il est venu vivre ici avec son fils unique, le capitaine. Le jeune Jack à l'époque. Et comment était-il? Ses doigts s'immobilisèrent dans la jatte. Je la sentis prête à donner franchement sa première impression du jeune garçon qui fut intégré à la famille qu'elle aimait tant. Elle se força à sourire. Oh, un jeune garçon comme les autres! Joyeux, insolent, avec des boucles d'un noir de jais qui lui mangeaient le visage. D'un noir de jais? Elle gloussa devant ma stupéfaction. Eh oui, quand on le regarde aujourd'hui, on ne reconnaît pas le Jack Severn qui tournait en rond dans cette maison du matin au soir, comptant les jours, impatient d'avoir l'âge de partir en mer. Certains disent que ses cheveux ont été décolorés par le soleil des tropiques. D'autres murmurent qu'il a eu un jour une telle frayeur qu'il a blanchi en une nuit. Et lui, que dit-il? Martha eut une moue dédaigneuse et il lui fallut quelques minutes pour tourner sa réponse. « Tu te rendras compte que ce que dit le capitaine n'est pas toujours digne de foi. » Je la sentis tellement mal à l'aise que je préférais revenir à des questions moins embarrassantes. Mais le jour où il est arrivé ici, eh bien tout allait pour le mieux. La mère des enfants avait retrouvé le sourire, et au fond elle avait fait un excellent mariage, car le père du capitaine était une crème, un homme facile à vivre. Samuel, Edmond et Liliana ont fait de leur mieux pour devenir amis avec leur frère par alliance, et pour ignorer ses sautes d'humeur et sa malveillance. C'était le mot utilisé par ma mère dans son journal à propos de Jack. « Sa malveillance ? » répétai-je doucement. « Et comment ? Il pouvait être très dur. Pourtant, c'était un gamin, lui aussi. Mais il disait des choses cruelles sur les jeux auxquels les autres jouaient gentiment. Il était souvent méprisant, comme s'il était promis à une destinée grandiose. Il se croyait au-dessus des autres. Il répétait tout le temps. « Un jour, je serai tellement riche qu'une belle maison comme celle-ci ne méritera même pas mon regard. » Il visait très haut, alors. C'est ce que tout le monde pensait. D'ailleurs, George Severn se moquait de lui et le mettait en garde. « Fais attention, Jack. Tu ferais mieux d'apprécier la splendide demeure que ta belle-mère a eu la gentillesse de t'offrir plutôt que de la dénigrer pour caresser je ne sais quel rêve. » Alors, en un clin d'œil, l'humeur de Jack changeait du tout au tout. Il se retournait avec un grand sourire, il demandait pardon à la mère des enfants et s'extasiait sur le magnifique dallage du vestibule. Et il était toujours pardonné, à chaque fois. Tout le monde avait compris que Jack était d'une nature instable depuis sa naissance, toujours avec des hauts et des bas, joyeux à un moment, odieux l'instant d'après. On aurait dit qu'un ange et un démon se disputaient constamment son âme. C'était tantôt l'un, tantôt l'autre qui lui soufflait ses conseils. Je me souviens d'avoir entendu un jour un garçon d'écurie dire à Edmond « Quand on donne un bâton à votre frère Jack, on ne peut jamais savoir s'il va s'en servir pour faucher des mauvaises herbes ou pour tuer son meilleur ami. »